Vous écoutez
RMC. RMC, les GG sur le buzzer.
On est sur le buzzer, c'est la fin de saison et rien ne va plus effectivement dans les vestiaires des deux clubs parmi les plus populaires dans le monde du foot, hein, en Espagne et en France en tout cas. On n'en finit plus d'entendre parler des tensions à l'OM, avec des joueurs agacés par les mises au vert à répétition, imposées par la direction au milieu des mauvais résultats. Alors, info RMC tombée hier soir à minuit, Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté pour le match au Havre demain. Une décision qui intervient au lendemain d'incidents qui ont eu lieu à la commanderie lors de cette mise au vert. Certains ont organisé... On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on ne les a pas forcément, mais je vais vous dire les mots de Fabrice Hawkins qui nous donne les informations. Certains ont organisé une fête façon colonie de vacances, je mets les guillemets, qui aurait un peu dégénéré et qui ne passe pas auprès de la direction. C'est pour ça qu'Aubameyang n'est pas du déplacement. C'est allé encore plus loin au Real avant le Classico contre le Barça demain. Super le timing, les gars. Deux joueurs en seraient carrément venus aux mains. Enfin, en tout cas, ils se sont bagarrés à l'entraînement. Évidemment, ça enflamme la sphère médiatique. Nous, on en parle, mais pas que, aussi les supporters. Les GG, je vous pose cette question ce matin. Real et Marseille, est-ce que on en fait trop, nous, journalistes, avec les tensions de vestiaire? Christophe Cessieux.
Non, on n'en fait pas trop. Ça existe, donc on raconte.
Fred?
Non.
Sarah?
Non.
Alizé?
Ah ben je suis le seul, oui.
Un petit peu quand même, Sarah. Alors, vous savez que nous, dans la grande gueule du sport et sur RMC, on est toujours au cœur du réacteur. Edgar Grollo, notre correspondant en Espagne, est en direct en ce moment de l'entraînement du Real. Salut Edgar!
Salut Georges, salut tout le monde.
Personne n'a de gants de boxe, il n'y a pas un octogone
non,
qui a été
ça
installé.
Ça va. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de caméras braquées sur Aurélien Tchouaméni, c'était particulier.
Ah oui.
Mais a priori, pas de gants de boxe en vue.
Parce que les joueurs concernés, c'est Tchouaméni et Valverde. On a la veille du Classico. Alors, tu as assisté à la conférence de presse du coach Arbeloa il y a quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui s'est passé vraiment dans l'intimité du Real? On peut dire quoi ce samedi matin?
Alors déjà, ce qui s'est passé par rapport à l'altercation. Mercredi, il y a eu une première altercation verbale entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Et le lendemain, donc ce jeudi, la tension continue de monter. Et à la fin de l'entraînement, il y a une bagarre qui éclate dans le vestiaire entre les deux. Federico Valverde tombe, s'ouvre la tête et il perd connaissance quelques secondes. À ce moment-là, il est transporté à l'hôpital. Et le diagnostic final, c'est qu'il souffre d'un traumatisme crânien et qu'il est maintenant au repos forcé pour 10 à 14 jours. Le club d'ailleurs a sanctionné les deux joueurs pour cette bagarre, 500 000 euros d'amende pour chaque joueur. Alors ça a plongé le club dans le chaos, hein, puisque tu l'as dit, on est juste avant le Classico, c'est demain, et en plus de ça le Real Madrid peut officiellement perdre le titre demain. Et pourtant là, en conférence de presse il y a quelques instants, tout le monde ne parle que de cet événement là je vous propose d'écouter les tout premiers mots d'Alvaro Arbeloa sur l'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde. C'était il y a quelques minutes.
Je suis fier de la fermeté avec laquelle le club a agi. Les joueurs ont demandé pardon, ça me suffit. Je ne vais pas brûler mes joueurs sur un bûcher public parce qu'ils ne le méritent pas, pour leur effort et leur engagement, pour l'amour qu'ils ont pour ce maillot, et je ne vais pas l'oublier. On peut tous se tromper et tous les deux méritent qu'on tourne la page. Ce sont deux champions d'Europe et je suis fier d'eux. On dit beaucoup de mensonges. C'est faux qu'ils ne sont pas professionnels et c'est faux qu'ils m'aient manqué de respect ou qu'ils ne jouent pas parce qu'ils ont des problèmes avec moi. Je ne vais pas le permettre parce que c'est totalement faux. Je suis responsable du fait qu'on n'ait pas été à la hauteur, mais durant ces 4 derniers mois, je suis fier des joueurs et de la façon dont ils m'ont accueilli. Parfois, la frustration et la colère provoquent des situations qu'on ne veut pas. On doit se concentrer sur le match.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le coach a précisé que des tensions entre des joueurs, il en avait vu dans tous les vestiaires où il était passé, et il a rappelé que pendant qu'il était à Liverpool, un de ses coéquipiers avait même tapé un autre coéquipier avec un club de golf qui avait déjà fait scandale en Angleterre à l'époque.
Ouais. Mais il a pas dû taper fort quand même, parce que
un club de mini golf.
Ouais, c'est mal quand même. Un club de mini golf.
C'est quand même.
J'imagine un mini
golf. Bon, là, il y avait pas de club de golf a priori.
Ah ouais, mais toujours plus.
Ouais, un coach qui protège ses joueurs, c'est bien.
Bah oui, exactement. Edgar, juste, tu nous préviens, tu observes tout, évidemment, s'il se passe quoi que ce soit devant toi à l'entraînement du Real où tu es en direct. On va d'abord écouter Alizé, puisque tu nous dis que pour toi, on en fait peut-être parfois un peu trop avec les tensions de vestiaire. Parce que pourquoi? Ça fait partie du sport de haut niveau.
Alors là, quand ça atteint ces extrêmes-là, où il y a un mec qui est envoyé à l'hôpital, je veux bien qu'on en parle. Ça fait partie aussi de l'information qui doit être délivrée au public et tout. tout ça. Mais pour le reste, souvent, c'est quand même un petit peu, c'est des gossips, quoi. C'est des potins, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Alors qu'au final, et Fred, tu pourras pas me dire le contraire.
Laisse-moi répondre.
D'accord. Alors. J'ai hâte de connaître la vie de Fred, du coup. Mais pour moi, dans tous les collectifs et dans tous les vestiaires, il y a évidemment des tensions qui se créent. Le problème, c'est quand ça fuite. Mais c'est quand même quelque chose de très, très courant. Moi, je l'ai expérimenté pas plus tard que le mois dernier en Billie Jean King Cup. Des petites tensions entre les filles. L'essentiel, c'est que le lendemain, tout le monde reparte au boulot. Tout le monde se remette dans la même vision, dans la même mission. Et c'est évident qu'un entraîneur, à ce moment-là, c'est son rôle aussi d'apaiser les tensions, d'être là et de vérifier que ça n'impacte pas trop la performance. Mais pour moi, quand on gère un groupe d'humains et quand il y a un groupe athlètes qui vivent ensemble tous les jours, évidemment, il y a des discordes, il y a des choses qui se passent.
Parce que ça fait partie du sport de haut niveau.
Mais évidemment, et au final, on en fait des gorges chaudes, alors que, honnêtement, voilà, c'est juste normal dans toutes les sociétés. Alors là, en plus, c'est poussé à son paroxysme, parce qu'avec les émotions du sport, avec les égos, avec les
pression,
la pression, tout ça, bah voilà, ça prend des grosses proportions. Et je pense que les égos dans les vestiaires, ça clash.
Mais toi, du coup, en plus, t'as la position de capitaine maintenant, ça t'a plutôt servi, en tout cas jusqu'à maintenant, à se dire les choses. Et en fait, on avance derrière. Ça peut permettre d'avancer.
Ça peut servir.
Même dans un moment.
Ce qui me dérange un peu, c'est quand il y a de la violence qui rentre en jeu, de la violence physique. Ça dépasse les bornes, mais sinon oui, c'est l'occasion souvent de crever des abcès, de se dire des choses. Et si les joueurs ou les athlètes sont un peu intelligents, il y en a forcément un à un moment donné qui va faire un pas vers l'autre, et ça peut même renforcer un lien. Et après, on sait pourquoi on est là, et on sait qu'on va dans la même direction, qu'on doit mettre des choses sous le tapis, qu'on doit faire des efforts. Mais en tout cas, voilà, moi je dis oui, parce que je trouve que souvent comme je l'ai dit, on en fait un peu des gorges chaudes, et ça nourrit l'actualité. Alors que
Fred, non mais toi, pour le coup, tu trouves qu'on en fait trop?
Non, je pense pas qu'on en fasse trop. Je pense que ça fait partie de l'information. Alors je suis à moitié d'accord avec toi, parce qu'effectivement, toutes les altercations, faut pas les citer, faut pas les mettre en avant, etc. Mais il y a des altercations qui sont néfastes au résultat, et à partir de là, bien sûr, un journaliste, c'est quoi son job? Expliquer le pourquoi du comment. Donc, et si...
Toi, t'as eu des séquences où il y a eu des altercations dans un vestiaire?
Il y a eu des altercations qui sont restées dans le vestiaire parce que les résultats étaient là, et c'est normal, effectivement, il y a des égos, et parfois, il y a cette envie d'en
découvrir. Mais quand ça marche moins bien?
Mais quand ça marche moins bien?
C'est pas neutre?
Pas neutre. Évidemment que c'est pas neutre, parce que ça peut créer des distorsions.
Après, ce sont vos expériences à tous, c'est intéressant.
Ça peut créer des distorsions à l'intérieur de l'équipe, et donc, comme par hasard, c'est ces équipes-là où les résultats ne sont pas là. Donc, logiquement, qu'on parle de toutes les altercations, je vous entends, effectivement, il ne faut pas le faire. Mais en plus, quand on parle de clubs comme l'OM, comme le Real, qui sont bien sûr scrutés bien plus que les autres clubs,
on en parler,
et en plus, les performances n'étant pas bonnes, il faut qu'un journaliste ait l'explication aussi.
Oui, mais il n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants, et donc ce qui est raconté, c'est pas forcément non plus la réalité.
Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que si ça sort du vestiaire, déjà pour moi, c'est un problème.
Parce que on est d'accord là-dessus.
Tu tiens pas ton vestiaire. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème.
On n'est pas tous potes dans un vestiaire, ça on l'a bien compris, on en a parlé souvent.
On n'a pas besoin d'être pop pour réussir, mais par contre, on doit se respecter. Donc à partir du moment où on se respecte plus, je pense que le boulot d'un journaliste, c'est d'expliquer pourquoi ça ne va pas dans le vestiaire, parce qu'il y a un manque de respect.
En fait, le manque de respect, c'est un truc déterminant.
Exactement.
Il faut se respecter.
On peut se détester, mais se respecter.
Chris,
n'est-ce pas, Alizé ?
On en fait trop. On en fait trop.
Et moi, je t'aime.
On en fait trop. Nous, c'est notre travail de raconter ce qui se passe, même si moi, personnellement, en tant qu'être humain, ça m'intéresse pas. Je m'en fous de savoir que les mecs se mettent sur la gueule dans le vestiaire au Real ou à Marseille.
Tu veux dire quoi? Ça explique pas forcément trop la performance.
Mais je pense que je suis pas représentatif des supporters qui aiment savoir ce qui se passe exactement dans leur vestiaire, essayent de comprendre pourquoi ça va mal et pourquoi derrière sur le terrain ça part en brioche. Donc je comprends que quand t'es supporter de l'OM, t'as envie vraiment de savoir ce qui se passe et quels sont les méchants, quels sont les taux, quels sont les trucs. Mais après c'est le boulot de Florent Germain, d'Edgar, d'aller chercher la petite bête et d'aller la raconter. C'est leur job, donc il ne faut pas leur taper dessus, ils sont payés pour ça. Et même si Florent Germain, je suis sûr, préférerait dire que du bien de l'Olympique de Marseille et que les mecs sont
tous copains, c'est pas
son boulot.
Non, mais leur travail, c'est de dire ce qui se passe dans l'intimité pour que vous, supporters, vous voulez savoir
un
ce qui se passe dans votre
club. Un journaliste,
c'est
pas un ami de la crèche. Hein.
Non mais exactement.
La différence des sportifs de haut niveau.
Non mais le supporter paye sa place pour aller au stade, il paye pour voir des gens jouer, des gens gens pour lesquels il est passionné. Il veut savoir pourquoi ça ne marche pas. Parfois, c'est notre rôle. Sarah, on en fait trop ou pas?
Non, on n'en fait pas trop. Encore une fois, c'est même pas une histoire de journaliste. Si ça sort des vestiaires, c'est qu'il y a quelqu'un qui les raconte. Les journalistes, ils sont pas dans les vestiaires.
Oui,
les
donc c'est pas neutre. Taupes.
Les fameuses taupes.
C'est pas neutre. Ça veut dire que quelqu'un le raconte.
Bah, forcément, c'est encore une fois, c'est s'il y a des choses qui se passent et que ça sort. On n'a pas mis ni un micro dans les vestiaires, ni une caméra, ni un journaliste. Donc ça fait aussi partie aujourd'hui j'ai envie de dire d'une mauvaise habitude qui est prise, c'est-à-dire que t'en as toujours un qui va envoyer en off un petit son, un petit truc. Tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Après,
je pense que ça vient des joueurs eux-mêmes.
Bah non, mais ça peut être des proches.
Les entourages, enfin,
je veux dire les
fameux entourages. Une source proche du joueur.
Ouais, une source proche. Dans Gala, ils disent ça.
Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que je regardais là sur les réseaux sociaux des commentaires. Il y en a qui disent, bah si ça s'était passé à Lens, on n'en aurait pas fait tout un pataquès. Mais vous avez raison.
Mais
vous avez raison, parce que le devoir d'exemplarité de ceux qui génèrent le plus d'argent, c'est le PSG, et puis c'est l'OM. Et ben oui, parce que l'OM, ils vendent des maillots à travers le monde, et puis parce que l'OM, ça a une image de marque, que ça les arrange bien de dire que l'OM, c'est un club connu dans le monde entier. Mais il faut en assumer les conséquences.
Si ça mettait au PSG, on en aurait fait encore plus, hein, tu peux lui répondre.
Peut-être plus ou moins, ce que je veux dire, c'est que t'es une marque. Aujourd'hui, t'es un club de foot, t'es une marque,
et puis évidemment,
t'as un devoir d'exemplarité.
Quand la séquence est ultra négative, ça prend plus d'ampleur pour nous, évidemment, journalistes, et aussi pour les supporters. Tiens, justement, Grégory, supporter de l'Olympique de Marseille, est avec nous au 32-16. Salut Grégory.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir. C'est ma première dans les grandes gueules.
Bah écoute, bah merci, bah on est ravis de t'accueillir, Grégory. Ouais. Bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, toi, quand t'as écouté les informations qu'on a données sur l'OM actuellement dans le vestiaire, avec Aubameyang qui est écarté, est-ce que pour toi, comme supporter, c'est très important finalement de savoir ce qui se passe actuellement pour comprendre la séquence actuelle négative de l'OM?
Alors, avant toute chose, j'ai un petit message à faire passer si possible.
Vas-y.
Je m'adresse aux auditeurs. Si vous avez des joueuses qui veulent jouer au football, il y a un club, ça s'appelle la VGA Saint-Maur Football Féminin. C'est dans le 94. 6 titres de D1 gagnés.
Ben voilà.
Des tournois contre Brest, Le Havre, Lille, le FC Nantes, etc. Tremplin D1, D2. On a Kelly Gago qui est passé par chez nous. Et c'est un excellent club qui forme au football féminin.
Le message est passé, Grégory. Voilà. Effectivement.
C'est les petites annonces du genre, en fait, aujourd'hui.
Bon, et l'OM, pour le coup, ce qui se passe dans le vestiaire actuellement, est-ce que c'est important pour toi de le savoir, en fait?
Alors le savoir ou pas, je sais pas si c'est important. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait ce club, ce n'est décidément pas une institution. Il y a trop souvent de problèmes. À partir du moment où vous avez en 10 ans, 269 mouvements de joueurs, ce qui fait 27 mouvements par an, si on fait un calcul très simple, déjà on construit pas une équipe. À partir de là, est-ce que la stabilité existe dans ce genre de situation? Je ne pense pas. Maintenant, est-ce qu'on doit le savoir ou pas? Sincèrement, je m'en fiche. Par contre, ça ne doit pas se passer. C'est lamentable de voir un club professionnel avec des gars qui gagnent autant d'argent se comporter comme ça. Là, on le disait au début de votre émission, d'accord, pour la présentation, on disait, en fait, c'est pas compliqué, c'est le bazar à l'OM sur le plan sportif, peut-être même sur le plan financier, peut-être même sur le plan du fair play, hein, on en reparlera peut-être un jour, ce qui se passe, et on a des joueurs qui ont fait la fête dans leur chambre pendant leur espèce de confinement, espèce de punition complètement débile, là. Mais alors, ça veut dire qu'en fait, dans une situation comme celle-ci, l'état d'esprit des joueurs, c'est de faire la fête. Eh ben, c'est pas professionnel, ça.
Mais voilà, c'est pour ça que...
L'année prochaine, on joue quoi? On joue la Ligue 2? On joue le maintien? Parce que là, ça en prend le chemin, là. Là, ça en prend le chemin. Le PSG, il peut gagner la Ligue des Champions à tour de bras, parce que c'est une super équipe. Il n'y a pas de problème. Mais nous, avant déjà d'en arriver là, faut déjà arrêter d'avoir des joueurs dans notre effectif qui sont démissionnaires. Le match pourri qu'on fait contre l'Orient.
C'est important pour vous, on a bien compris, pour le coup, de savoir ce qui se passe dans le vestiaire actuellement pour apprécier un peu l'implication des joueurs.
La comprendre, dans la situation savoir actuelle. Exactement où on en est, exactement, bien sûr, c'est important.
Exactement, je remercie Grégory Desveniaux, 32-16, évidemment, d'avoir participé avec nous et pour son message, pour le développement du foot féminin, évidemment, on l'accompagne, bien sûr.